J'ai travaillé effectivement dans pas mal d'endroits, aussi en Espagne et au Chili. Et depuis quelques années, depuis 2008-2009, je travaille sur le vignoble de Bagnols-sur-Mer parce que nous cherchions, avec un collègue de Lyon 2, avec qui je travaille aussi, qui s'appelle Nicolas Jacob, nous avons décidé d'essayer de trouver un laboratoire, quelque chose d'assez circonscrit et où on puisse trouver beaucoup d'enjeux. Et il se trouve que nous connaissions tous les deux ce petit coin de la France. Pourtant, nous n'en sommes ni l'un ni l'autre originaire. Moi, je suis originaire d'Albi, exactement dans le Tarn. C'est pour ça que j'ai fait toutes mes études à Toulouse. Et si je vous dis d'où je viens, précisément, et même là où je suis né, c'est parce que quand on travaille sur la vigne et le vin, c'est important de pouvoir dire d'où l'on vient parce qu'on est dans un milieu où il y a tellement d'affect, un milieu où il y a tellement de valeur ajoutée, autant au sens symbolique qu'au sens pécunier, qu'il vaut mieux parfois dire qu'on n'est pas du coin et avoir plus de liberté de parole. Donc je ne suis pas catalan, je ne suis pas limousin, je ne suis pas d'aucune région. Je ne suis d'aucune région que j'ai étudiée. Moi, je viens d'Albi. Albi, c'est à côté de Gaillac pour situer les coins viticoles les plus proches. Alors, voilà, mon parcours s'est déjà fait et il l'a déjà retracé. J'ai pas besoin d'y revenir sur les différents terrains sur lesquels j'ai travaillé. Et je suis passé d'une vision très agro au départ de mes travaux, d'une vision très géomorphologique à une vision assez culturelle, très basée sur les représentations. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il l'a très bien présenté, parce que ça prouve qu'il a lu mes derniers travaux. Je suis effectivement passé du cultural au culturel, avec ou sans jeu de mots, comme vous voulez. En tout cas, je jongle un petit peu entre les deux, ce qui fait que, comme a pu le dire un des membres du jury lors de ma soutenance il y a maintenant 3 mois et demi, je peux le dire, hein, il l'a dit en ces termes-là, il m'a dit « tu as souvent le cul entre deux chaises ». Voilà, comme c'est une citation, je peux me permettre de dire un gros mot. Bon, et c'est un peu vrai. Mais bon, moi, je vais axer ma représentation aujourd'hui beaucoup plus sur le culturel que sur le cultural, même si nous allons effectivement parler un petit peu, un minimum d'agronomie et des conséquences qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Voilà où est situé exactement le vignoble de Banyuls, Banyuls-Collioure, parce qu'il y a deux types de vins principaux, deux appellations qui se chevauchent, deux AOC qui se chevauchent, trois même exactement, vu qu'il y a le Banyuls Grand Cru. Donc, quatre communes, ici dans cette minuscule péninsule qui regarde vers la Catalogne sud, vers l'Espagne. Nous sommes dans la Catalogne nord, là, hein, partie donc donnée en dot à Louis XIV en 1659. Et dans cette petite partie, il y a la commune aujourd'hui de Collioure, la commune de Portvendres, la commune de Banyuls, la commune de Cerbère. Et j'ai étudié différents bassins versants, ici, ils vous sont déjà signalés, pour voir un petit peu les études paysagères que l'on pouvait faire depuis le 19e siècle pour montrer quelques petites choses qui constituent d'ailleurs le support de ma communication. Attention, et l'appellation ici est bordée par ce ruisseau que l'on appelle le Ravanais, et de l'autre côté, ici, on est à Argelès-sur-Mer, on est dans l'appellation Côte du Roussillon Village. La moitié seulement du bassin versant est comprise, pardon, dans l'appellation Collioure. Voilà, maintenant vous savez où on est. Géologiquement parlant, je ne vais pas beaucoup vous embêter, hein, surtout je serais bien incapable de vous faire la différence entre des schistes chloriteux et des schistes abiotites. Enfin, si, je la connais, mais il faudrait que c'est pas le sujet, et il faudrait quand même que juste réviser ce que je n'ai pas fait, parce que, encore une fois, si la géologie nous sera utile, c'est simplement pour avoir une idée de paysage, parce qu'ici nous sommes sur des sols qui sont complètement à nu, la roche se voit, et ce côté bleu-gris, qui parfois même tire au violet de la roche par endroit, est intéressant pour des choses qui vont nous revenir à l'esprit à la fin de ma communication. Donc un paysage essentiellement constitué de schiste. Voilà, ça suffit. Pour le reste, c'est pas très intéressant, surtout que la vigne est essentiellement comprise en dessous de 400 à 450 mètres, c'est-à-dire essentiellement dans la moitié ici, dans la moitié est de l'appellation. Pensez que ici, bien sûr, nous sommes au bord de la mer, partout évidemment où ma flèche se promène. Pensez que ici, là, à la limite de l'appellation la plus élevée, nous sommes à 981 mètres. quasiment à 1000. Il y a 4 km à vol d'oiseau entre ce point culminant et Bagnols-sur-Mer. Donc bien sûr, nous sommes dans un univers qui est dominé par la pente. Les pentes, l'omniprésence de la pente et même des fortes pentes. La vigne peut arriver à occuper des pentes de près de 80%. Une pente de 80%, c'est simple, quand vous mesurez 1m70, 1m80, vous penchez un peu, et bien vous touchez le sol. Moi qui mesure presque 1m90, j'ai même presque pas besoin de me pencher. Donc vous avez une idée du poids, bien sûr, de l'érosion que l'érosion va prendre, bien sûr, dans un tel endroit. Voilà l'idée des altitudes. Évidemment, ici, là, vous voyez, on est presque à 1000 dans ce coin-là. Bien sûr, il n'y a pas de vignes. Et vous avez effectivement, d'une autre manière, représenté cette omniprésence de la pente en rouge dégradé. Cet endroit, bien sûr, c'est un petit coin de France qui est soumis au climat méditerranéen. Et cette érosion, cette pente sont bien sûr connaît une accélération de l'érosion à cause des abadeaux qui peuvent voir le jour. Voilà deux photos que j'ai attrapées sur le site de l'Indépendant catalan. Là, c'est la rue qui est derrière Bagnols, derrière le front de mer. Vous voyez, il y a 50 cm, 60 cm d'eau. Ça, c'est la rue principale à Cerbère. Voilà. Les jours de beau temps, vous vous garez, vous allez acheter le journal, ce que vous voulez, de part et d'autre. D'ailleurs, vous vous apercevez que les trottoirs sont, comme par hasard, surélevés. Et puis, les jours où il fait orage, ça peut arriver bien sûr en plein été, eh bien, si vous laissez votre voiture, vous pouvez la retrouver peut-être, loin, de la côte. Pensez que lors de l'aiguate de 1940, la tête a emporté une locomotive à vapeur dans la gare de Perpignan. Une locomotive à vapeur en 1940, c'est déjà un bel engin. Regardez le film de Renoir, La Bête humaine. Et la locomotive, on ne l'a jamais retrouvée. Elle ne doit pas être bien loin. Elle est dans le delta de la tête, quelque part, à quelques kilomètres. Mais la force des éléments est bien sûr importante dans ce coin-là. Alors, force des éléments, force de l'occupation aussi d'une population qui a beaucoup varié, force de l'apparition et de l'aménagement du paysage par la viticulture. Tout ceci constitue ici des enjeux bien particuliers. On a un territoire qui est aménagé en terrasse, bien sûr, pour lutter contre cette érosion, et pas qu'en terrasse. Vous allez le voir tout de suite. On lutte contre l'érosion avec les terrasses, et on lutte contre l'érosion grâce à un système assez particulier que l'on ne retrouve pratiquement pas ailleurs en Europe, que l'on trouve un petit peu au Proche-Orient. C'est un système dit en pied de coq, peu d'égal en catalan. Et on est dans un endroit aussi où le risque des incendies est très important. On est dans un endroit où la viticulture se joue un petit jeu à la je t'aime moi non plus, d'attraction et répulsion avec la balnéarisation, avec la littoralisation. Les touristes sont très tournés vers la mer et regardent rarement derrière eux le paysage qu'ils peuvent avoir, sauf quand ils fréquentent les restaurants locaux. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est à étudier. Et puis, troisième point dans la problématique, il y a aussi tout un volet culturel, des pratiques culturelles qui modèlent les paysages, je le dis de suite, je en reparlerai à la fin, notamment avec l'usage généralisé des pesticides, du Roundup. Voilà, le principal qui est utilisé dans la région. Donc, nous avons là des enjeux importants qui tournent autour de l'enfrichement, des incendies, de la littoralisation et des pratiques culturelles. Des enjeux qui se mélangent, bien sûr, avec un vignoble qui est très fluctuant dans le temps. Un vignoble qui, dans les années 1800, était simplement 2000 hectares, à peu près, d'après les sources diverses et variées que j'ai pu recouper, et qui, très vite, grâce à l'essor du chemin de fer, grâce à la révolution industrielle, est monté à 5000 hectares à peu près en 1880. Le phylloxéra arrive en 1888, ça n'a pas duré longtemps. Donc le vignoble, en moins de 15 ans, retombe à un niveau très très bas, 500 hectares. Et depuis, il fluctue, il s'est reconstitué grâce aux hybrides, grâce aux, grâce à la prolifération aussi des vins mutés. Le bagnoul, c'est un vin muté, je vais en parler dans 2 minutes. Et grâce donc à l'essor de tous les apéritifs type muscat, muscat de Rivesaltes, bagnouls, mori, pinot des Charentes, pour sortir des Pyrénées orientales. Et puis, durant les années 60, 70, 80, entre la fin de l'exode rural, la concurrence balnéaire, gros problème du maintien du paysage, le gros problème d'une mécanisation qui est impossible, la vigne a diminué, et puis elle a repris très lentement, notamment par l'intermédiaire des vignes coupe-feu, j'en dirai quelques mots, et finalement ma courbe est assez optimiste. Je l'ai dressée il y a 4-5 ans, je crois qu'aujourd'hui je la ferai beaucoup plus plane, voire même légèrement en régression. Je crois que je vais parler un peu de prospective aussi à la fin de mon propos, et je crois que ce vignoble, effectivement, aujourd'hui court de graves risques, non pas de disparition, mais de diminution assez accélérée. Terrasse qui strie les pentes, et puis en diagonale, vous avez des fossés qui drainent ces parcelles, qui recueillent l'eau et qui se jettent dans un fossé principal. Et cette forme en trident, voilà, hein, c'est ça, le pied de coq, le pied d'égal. Et localement, ces fossés sont appelés des agouilles. Voilà. Voilà comment c'est expliqué, de manière très simple. Hein. Vous avez le collecteur principal, l'agouille maître, le collecteur principal, qui est relayé par deux collecteurs secondaires, et qui donnent cet aspect en trident, que l'on retrouve pratiquement, pas partout, mais que l'on retrouve pratiquement sur tout le vignoble, essentiellement sur les communes de Port-Vendres et de Bagnouls, et de Cerbère. Le sud de Port-Vendres, tout Bagnouls et Cerbère. Attention, les communes de Port-Vendres et de Cerbère n'ont commencé à exister respectivement qu'à partir de 1857 et 1883. Ce qui vous prouve bien que l'essor du chemin de fer a amené beaucoup de pratiques nouvelles dans cet endroit. Donc on a un paysage qui est particulièrement patrimonialisé, non seulement de par la vigne, mais aussi par l'aménagement des pentes, qui ne sont pas qu'en simple terrasse. Et si vous passez la frontière, qui est à quelques encablures, si vous allez donc immédiatement après Cerbère, vous avez Portbou, puis vous avez Saint-Miguel de Coléra, La Selve, et vous arrivez jusqu'à Cadaqués, qui est un des spots très connus du coin grâce à Salvador Dali, eh bien vous allez retrouver ces terrasses partout, omniprésentes, aujourd'hui dans un paysage de déprise rurale totale, mais il n'y a pas un seul Péo d'égal, pas une seule agouille, pas un seul pied de coq. Ce paysage est typiquement bagnoulinque. On ne le retrouve que dans quelques coins de l'Italie, et un peu, encore une fois, au Proche-Orient, notamment en Syrie. Alors, je ne sais pas imaginer en Syrie à l'heure actuelle, ça c'est une parenthèse d'humour noir. Alors, puisqu'on va parler d'évolution paysagère, simplement quelques vignettes pour vous montrer de quelle manière ça a pu évoluer. Voilà trois vues du port de Port-Vendres entre 1900 et aujourd'hui, et je veux simplement que vous vous focalisiez ici sur cette espèce de rentrée dans la mer qui protège la rade de Port-Vendres. Vous voyez que, grosso modo, avant 1914, cette carte postale date de 1910. On a les traces donc des pieds de coq, qui ici nous montre que la végétation est assez à nu. Déjà, là, on voit les agouilles qui descendent. On voit ce paysage qu'on peut imaginer du coup viticole. Si on se penche sur la carte, sur cette carte des années 70, je me souviens très bien de ce camping là quand j'étais petit. Une photo qui a bien 40 ans. On s'aperçoit déjà que quelques bois ont gagné, quelques maquis sont apparus. On les voit en vert plus foncé. On s'aperçoit aussi que l'urbanisation a commencé un tout petit peu à gagner. Et bien sûr, aujourd'hui, vous voyez l'urbanisation qui a beaucoup gagné, y compris l'arrière-pays. Les friches ici sont devenues des bois de pins maritimes. La vigne qui était relictuelle encore peut-être ici et encore, je pense que ce sont des broussailles. Évidemment, ici, on voit très bien que des arbres commencent à pousser. On peut imaginer qu'en 2020 ou 2025, ces arbres ici auront tout recouvert. Il n'y a pas de raison d'ailleurs de penser pour l'instant que ça fera autrement. Voilà ici une vue sur le sanatorium de Bagnouls, il est assez connu. Et vous voyez bien qu'entre 1900, 1910 et aujourd'hui, eh bien, les pins maritimes ont pris l'ascendant sur le paysage par rapport à la vigne, qui quand même ici se maintient dans une ambiance très très maritime. Ce n'est pas paradoxalement la plus favorable à la qualité. Voilà ici deux vignettes, une un petit peu faite, je dirais, rapidement, parce que elle est faite avec des technologies qui ne correspondent pas aux nôtres aujourd'hui. Elle est tirée de la thèse de François Alcaraz, mais à l'époque on faisait comme ça. Moi aussi j'ai beaucoup crayonné de cartes pour mes recherches avant que nous passions à la géomatique à la fin des années 90. Et elle a son intérêt pour montrer justement cette expansion maximale. Les quatre communes de l'appellation, il manque Cerbère ici, hein. Les quatre communes de l'appellation, voilà Cerbère, font 7800 hectares. Et voilà ici les 5000 hectares de vignes maximum que qu'ont connu ces territoires. Vous voyez, simplement, les parties exclues, les parties qui ne sont pas en vigne, ce sont les parties qui sont quasiment à pic, à 100% de pente, donc incultivables et même infranchissables, même parfois pour les troupeaux. Donc cette expansion maximale donne bien une idée qu'à un moment donné, en 1880, la vigne a été partout. Est-ce qu'elle est partout depuis longtemps? Est-ce qu'elle est partout depuis le Moyen-Âge, comme on le dit? Et est-ce qu'elle pourra en quelque sorte continuer à être à beaucoup d'endroits? C'est ça un petit peu qui nous a amené à réfléchir, et nous avons étudié plusieurs bassins versants pour cela. En premier, donc ici, le bassin versant du Cospron, qui est un ruisseau qui se jette à Polille, ici, dans la baie de Polille, commune de Port-Vendres. Alors, un bassin versant très pentu. Ici, vous êtes à près de 600 mètres, ici, bien sûr, au niveau de la mer. Et voilà une vue générale, prise en janvier, pour montrer les effets d'ombre aussi, du bassin versant. Et voilà le village, ici, de Cospron. Quand vous êtes ici, dans la baie de Polille, vous êtes dans un endroit un peu inattendu. Vous êtes dans une ancienne poudrerie d'Alfred Nobel, une des premières usines fabricantes de la dynamite, qui a fonctionné sans discontinuer de 1871 à 1992, et qui est aussi un élément polluant majeur de la région. Personnellement, je ne vais jamais me baigner dans la baie de Polille, bien que ça ait été dépollué. Le site a été réaménagé, aujourd'hui beaucoup plus saillant qu'il y a 20 ans. Je suis allé, donc j'ai passé avec des étudiants d'occupation des parcelles. J'ai passé donc pas mal d'heures aux archives départementales de Perpignan avec deux étudiants ces dernières années. Et nous avons recueilli d'abord les données parcellaires pour 1813 et 1913. Et puis pour les trois pas de temps suivants, nous nous sommes appuyés autant sur des données cadastrales que sur les photographies aériennes, quand c'était possible. Et sans surprise, eh bien, nous voyons que les terrains de parcours, qui étaient encore d'ailleurs bien présents en 1913, sont devenus des forêts, des maquis, et la vigne s'est extrêmement morcelée au fur et à mesure des années, a même perdu du terrain par endroits, en a regagné dans d'autres. L'optimum viticole du phylloxéra, qui nous est montré un petit peu ici en 1913, mais c'est déjà un optimum vraiment sur la descente, hein. Le phylloxéra a déjà fait son œuvre, a été par endroit rattrapé, par endroit non. Ce qui est le plus intéressant finalement, c'est ici peut-être l'introduction de ces vignes coupe-feu qui ont donné un espèce de renouveau au vignoble. Il faut savoir que ce vignoble est extrêmement morcelé. Il y a environ 1800 ou 1900 viticulteurs pour à peu près 1800 ou 1900 hectares de vignes. Un peu moins d'un hectare en moyenne par viticulteur. Ce sont surtout des pluriactifs. Ils font toutes sortes de métiers. De chercheurs CNRS à, ce n'est pas une plaisanterie, à artisans, ouvriers, douaniers, il y a eu beaucoup de douaniers qui avaient de la vigne par le passé. Aujourd'hui, la douane emploie beaucoup moins de monde, surtout depuis les accords de Schengen. Quand je dis directeur de recherche CNRS, il y avait un chercheur de Paris 6, puisque le Paris 6 possède un laboratoire d'océanographique à Banyuls, qui avait légué ses vignes de Banyuls à Paris 6, parce qu'il est mort très très âgé, et sans descendance. Paris 6 a refusé l'héritage en faisant un procès post-mortem à l'ancien collègue qu'ils ont perdu. Donc ils ont été obligés d'accepter, et maintenant ils ne veulent plus le reconnaître parce qu'ils vendent les productions de ce domaine à bon prix et s'en sortent très bien. Ça s'appelle le domaine Saint-Pierre. Il n'y a pas de collègues de Paris 6 qui descendent à Banyuls tailler la vigne. Hein. C'est affermé à quelqu'un. Il y a une superficie non négligeable. Donc quand je dis que c'est une pluriactivité, ce sont près de 80% des viticulteurs qui sont pluriactifs. Et c'est une pluriactivité qui est dans un système coopératif. Il y a trois coopératives principales, dont une détient 75% de la superficie et de la production. C'est le Cellier des Templiers. Le nom est intéressant. La deuxième, donc elle détient 1200 hectares sur 1800 ou 1900. La deuxième, c'est la cave coopérative de l'Étoile qui n'en a que 220. Voilà. Et du coup, il n'y a qu'une trentaine d'exploitants privés. Il n'y a qu'une trentaine d'embouteilleurs. Avec même certains qui n'ont que quelques hectares. Hein. Le plus gros embouteilleur, il a 90 hectares. Le domaine est d'ailleurs à vendre, si vous êtes intéressé. C'est à peu près 30 000 euros l'hectare. Multiplié par 90, vous voyez ce qu'il vous faut mettre. Il est dans le domaine, dans l'anse de Pouilly, ce grand domaine. Pardon. Donc, domine la pluriactivité, domine l'éclatement parcellaire, domine aussi le vieillissement de la population. Plus de la moitié de ces propriétaires ont plus de 60 ans. Donc, sont essentiellement des retraités. Gros problème pour faire passer... Par la suite, quand je vais parler de devenir de pratique culturelle, gros problème pour aller voir des gens qui ont 65, 70, 80, 85, 90, hein, 90 ans dans la vigne, et leur dire, voilà, dans le futur, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il faudra faire comme ceci et comme cela. Ce sont des gens qui ne sont pas toujours très intéressés de se projeter dans un avenir même proche, parce qu'ils ne sont plus dans le cadre d'une vie active, parce que... Ils s'intéressent quand même beaucoup moins à ce que pourra devenir leur patrimoine, même s'ils y sont attachés. Et il y a bien sûr un problème de succession très important. Hein. Nous sommes encore une fois dans un domaine de très forte pente. Travailler ces vignes-là aujourd'hui par des moyens agraires traditionnels, comme on les employait avant 1960-1965, est devenu impossible pour des problèmes de coûts, ou très difficile pour des problèmes de coûts. J'en reparlerai. Oui, seulement une trentaine d'embouteilleurs, je l'ai dit, la pluriactivité, le morcellement, voilà ce qui domine. L'ancienneté de la vigne, eh bien, elle n'est pas toujours prouvée. Hein. Voilà ici un petit bassin versant qui est juste à côté du Cospron, commune de Banyuls-sur-Mer, et qui lui a l'avantage d'avoir des sources archivées beaucoup plus importantes. Nous sommes au mas des abeilles, au mas des abeilles, on prononce les S là-bas, chez moi aussi, Au Mas des Abeilles, on a une présence qui est attestée par les documents dès le haut Moyen-Âge. Or, en 1820, c'est devenu un ermitage par la suite. En 1820, on a un beau finage bien classique, comme on en faisait à une certaine époque avec les premières années de Géo. On peut toujours le faire, c'est intéressant. Ça structure bien l'esprit. Et on voit bien ici que les deux parcelles en vigne renvoient davantage à une consommation très familiale plutôt qu'autre chose. Quand on se situe ici en 1915, on voit bien qu'on s'est un peu plus intéressé à la chose. La révolution industrielle, le besoin en vin et alcool se fait sentir, mais on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Et puis, si je saute les pas de temps, on voit bien qu'en 2004, on a plus de vignes encore, et surtout, on voit le poids, bien sûr, de l'enfrichement, encore une fois. Voilà de façon redondante, j'en ai plus qu'un après, ne vous inquiétez pas, un autre bassin versant qui s'appelle le Rec des Escoumes. Lui, il a la particularité d'être à ras de Banyuls, juste à côté. Donc, juste à côté du port, juste à côté de l'endroit où, pendant des siècles, on a chargé des tonneaux remplis de vin, alors remplis de vin muté, du vin dans lequel on a rajouté de l'alcool pour garder un taux en sucre suffisant et aussi un taux en alcool suffisant pour que le vin se conserve. C'est le principe du Porto, c'est le principe de tous les muscats. Du vin sec, c'est le Collioure, hein, fait essentiellement donc à partir de Grenache, de Saint-Saud, de Carignan, de Mourvèdre, Grenache, Saint-Saud, Carignan, Mourvèdre et Syrah. Dans le Banyuls, vous n'avez que du Grenache, normalement. Mais au-delà des vins mutés et des vins secs, nous sommes aussi dans une région où on a pendant des siècles et des siècles pratiqué la distillation. Et l'alcool distillé a longtemps été un des moyens, des rares moyens de conserver les choses. Hein. Je me souviens comment ma grand-mère me faisait hérisser les cheveux sur la tête quand j'étais, quand même, je crois, j'étais ado, en me racontant de quelle manière on rapatriait les restes des soldats morts au front en 17, puisqu'elle avait 7 ans à l'époque, et on les rapatriait dans des fûts d'eau de vie ou de formol. Et alors les corps n'étaient pas les bons, donc ils faisaient l'aller-retour. Donc bon, bref, j'arrête. Il y a de quoi facilement avoir la nausée. Donc jusqu'au début du XXe siècle, l'alcool est un élément de conservation. On ne connaît pas bien le frigidaire, on ne connaît pas bien toutes les techniques modernes que d'aujourd'hui. Et cette région du Roussillon a longtemps été un réservoir d'alcool distillé. La tradition du Banyuls, en tant que vin muté, finalement, ne remonte que à l'entre-deux-guerres. Allez, on va être gentil, un peu peut-être avant 14, mais surtout à l'entre-deux-guerres, quand ces alcools d'apéritifs ont commencé à être popularisés, notamment à travers les muscats. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Beer, BYR2RH, qui est du coin. Beer avait carrément une ligne de chemin de fer privée pour amener ses fûts de vin muté à la gare de Rivesaltes et de Perpignan. Il en reste encore quelques morceaux dans le paysage. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est que nous sommes, donc je disais, à Radebagnols, tout près, à 1 km 500, 2 km du port, et en 1820, nous avons juste quelques vignes, c'est tout. Il faut attendre 1915, 1963 pour voir le vignoble véritablement s'étendre. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que, finalement, seules quelques parcelles ici parmi les plus pentues, et encore, je vois qu'en 1915, il y en avait déjà quelques-unes de plantées, seule cette partie, aujourd'hui bien recouverte par les pins maritimes, les chênes lièges et les lentisques et tout ce que vous voudrez, qui composent le maquis, ces parties-là n'ont jamais été viticoles. Le chêne liège, il n'est pas arrivé tout seul. On a voulu remplacer la viticulture par la culture du chêne liège après le phylloxéra. Ça a été un semi-échec. Mais il en reste quand même des forêts en production. Et aujourd'hui, on ne fait pas que des bouchons, on fait aussi des isolants, on fait aussi plein de choses avec le liège. Ce qui est aussi intéressant ici, c'est de voir la densité de drainage. Ce patrimoine dont j'ai parlé au départ, là, on a fait ça avec un étudiant de Lyon et on a simplement dessiné avec lui, tranquillement, en quelques heures, dessiné tous les canaux de drainage artificiels que l'on voyait. Il y en a là que l'on voit parce qu'il y a les vignes n'ont pas encore disparu depuis très longtemps. Ça, j'ai fait des petits calculs. Au bout de 10-15 ans, on ne voit plus les aménagements en pied de coque. En examinant différents types de parcelles, on est arrivé à cette conclusion. Donc on voit bien ce potentiel d'aménagement et de patrimoine très important qui est aujourd'hui d'ailleurs recouvert par la friche. Voilà le dernier exemple à travers le bassin du Ravanais, qui lui ne regarde pas la mer, il regarde l'intérieur des terres, et voilà ce que ça donne. Nous sommes ici côté Argelès, là, rive gauche, et puis rive droite ici, côté Collioure. Donc l'appellation Banyuls-Collioure a puissamment structuré ce bassin versant. La vigne a disparu, ici il y a encore beaucoup de vignes, vous voyez en 1813, la vigne a disparu côté Argelès, petit à petit, côté côté du Roussillon, pour se maintenir et même s'étendre ici, côté Collioure-Banyuls. D'ailleurs, le cellier des Templiers, ici, possède pratiquement toutes les vignes qui sont ici des vignes, vous voyez, post-1950, même post-1970. C'est simple, hein. En appellation d'origine contrôlée Banyuls-Collioure, la bouteille aujourd'hui vaut entre 10 et X, 30 euros parfois plus. Ici, en appellation Côte du Roussillon, vous pouvez tomber à 1 euro. Voilà, là, tout est dit, hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin pour vous expliquer comment simplement une limite communale et une limite d'appellation d'origine contrôlée peuvent structurer un paysage. Alors, nous sommes allés un peu plus loin. Je vais être assez court là-dessus parce que ce n'est pas le fond du sujet aujourd'hui. Nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons divisé ce bassin versant du Ravanais en carré de 100 mètres de côté, et nous avons essayé de voir justement la pérennité de l'occupation. pour voir un petit peu par rapport à ce qu'on nous raconte sur justement ce vignoble immémorial qui ne bouge pas, qui est là depuis la nuit des temps et qui produit du Banyuls depuis la nuit des temps. Et on s'aperçoit que finalement, très peu de ces carrés n'ont pas connu de changement. On a ici des parcelles qui étaient tout le temps en bois ou en prairie, qui n'ont pas bougé depuis 1810. Et ici, on a les quelques parcelles qui sont encore en vigne, qui l'étaient en 1815 et qui le sont tout le temps restées. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, ici, là, ces trois rangées de parcelles, si vous êtes arrivé à me suivre, là, je répète, là, ici et là, sont des versants exposés sud. Voilà. Il y a quand même une pérennité liée aussi à quelques conditions naturelles. J'ai beaucoup lutté contre mon esprit déterministe au cours de mes recherches. Bien sûr, vous sentez, de par mon ironie, que j'essaye de ne pas être déterministe, mais il y a quand même un poids ici des conditions naturelles qui est quand même un peu prenant, et c'est normal. Voilà simplement une autre manière de montrer comment l'occupation du sol a pu changer à travers les parcelles cultivées en vigne actuellement et l'état des parcelles ayant été en vigne au moins une fois. On voit que, évidemment, on a ici une carte finalement de la déprise agricole à l'intérieur des terres, une carte d'une volonté ici créatrice de vignes. Ce sont les celliers et templiers qui ont imposé cette mise en viticulture dans les années 70-80, et on voit légèrement la balnéarisation. Elle n'occupe que quelques centaines de mètres de large, mais elle est là. Voilà encore une autre manière de le montrer à travers l'évolution de l'occupation des parcelles en vigne en 1815, mais plus aujourd'hui. Et on voit bien sûr que très peu de vignes se retrouvent en vigne aujourd'hui. On voit un petit peu aussi le poids de l'urbanisation qui commence à arriver, mais qui est quand même assez circonscrite, il faut le reconnaître. Et finalement, on a essayé de calculer, tout ça est embryonnaire au niveau de la recherche, ça n'a que quelques mois, on a essayé de calculer la position physique moyenne des parcelles, un indice du potentiel physique. Voilà, c'est assez... je dirais que c'est assez pédant comme peut-être, mais tant pis, on se lance là-dedans, c'est juste une idée. On verra bien ce qu'on en fera par la suite avec les deux ingénieurs avec qui je travaille. Ça nous montre simplement, vous avez les résultats, hein, la vigne se situe entre 100 et 115 mètres, la pente moyenne est de 15%, et on privilégie bien sûr les appellations, les orientations ouest, sud-ouest, nord-ouest. J'allais dire, là, on a en quelque sorte réinventé l'eau tiède. Hein. Mais par rapport au discours dominant que l'on trouve dans l'appellation, par rapport à la communication dominante, eh bien, c'est intéressant. D'autant plus que nous sommes dans un milieu où on a replanté de la vigne pour lutter contre les incendies. Alors, voilà, je m'appuie ici sur les travaux d'un collègue du CNRS, qui est au laboratoire Géode à Toulouse, collègue avec qui j'ai fait toutes mes études, et qui lui travaille sur les feux de forêt, qui s'appelle Jean-François Galtier, qui non seulement est chercheur au CNRS, mais en plus, je crois aujourd'hui, commandant ou lieutenant-colonel, je crois, chez les pompiers. Enfin, aujourd'hui, il est officier supérieur chez les pompiers. Donc, il a dressé pas mal de cartes et de choses sur le sujet, et je lui en ai, avec son accord, piqué quelques-unes. Et voilà un graphique qui vous montre l'occurrence des feux de forêt ces 40 dernières années. On voit que depuis les années 80, ces feux de forêt sont en nette diminution. Pourquoi ? Parce que grâce à des crédits européens, on a planté des vignes par feu, essentiellement ici sur les pentes les plus fortes. Elles sont ici en bleu un peu turquoise, ces vignes par feu. Vous les voyez, vous les avez vues tout à l'heure à travers le bassin versant du Cospron, elles sont là. Elles sont ici essentiellement ici à Banyuls et à Port-Vendre. Et vous en avez un exemple ici, je crois que celles-ci, là, sont là. Voilà, elles sont ici. Voilà. Ces vignes par feu, on le verra par la suite, hein, on va le voir pour d'autres exemples, mais ces vignes par feu, le plus souvent, sont plantées dans le sens de la pente, avec pratiquement pas de terrasse et pas de pied de coque. Ce sont des vignes plantées sur des terrasses, fabriquées le plus souvent au bulldozer. Voilà. Donc, quid de la portée patrimoniale de tout cela ? Eh bien, c'est bien sûr un débat. Autre exemple pour vous montrer quand ça brûle, ça joue bien son rôle. Voilà. Lors d'un incendie à Collioure, Et à Port-Vendres, ça c'est une photo prise d'avion, c'est pour ça qu'il y a des effets de parallaxe très importants, vous voyez bien comment les vignes ont arrêté l'incendie. Hein. Le feu, quand il progresse essentiellement en rampant, le sol est à nu, il n'a plus rien à se mettre sous la dent, plus rien à brûler, donc il s'arrête. On voit bien ici aussi comment les parcelles non viticoles ont brûlé et comment les parcelles viticoles n'ont pas brûlé. Voilà. Donc ce rôle-là est indéniable et intéresse beaucoup les gens. On communique beaucoup sur le patrimoine, on communique beaucoup sur ses pieds de coq, on communique beaucoup sur le paysage, on communique beaucoup sur son ancienneté. Tout cela reste à prouver. Voilà ici la carte de Cassini. Vous avez la vigne qui est symbolisée, encore d'ailleurs on a repris le même symbole par ce petit tuteur et ce sarment. Et ici, au sud, rien. À part ce toponyme, le Vignes, hein, qui correspond d'ailleurs aux masses des abeilles, rien, pas de vigne. Attention, à prendre avec des pincettes, la carte de Cassini n'est pas la Bible. Hein. On peut très bien aussi avoir une personne qui n'a pas représenté la vigne. Mais on regardait tout à l'heure une carte de départementale des Pyrénées-Orientales qui présentait absolument la même dichotomie. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on a dans les archives des traces de vignobles beaucoup plus anciennes à Collioures, là où l'on pratique la vigne en terrasse avec très peu de pieds de coq. Par contre, à Banyuls, la viticulture est arrivée après. Et avec cette technique des pieds de coq, qui ne remonte pas, comme le dit le cellier templier, au XIIIe siècle, hein, avec Arnaud de Villanova qui a inventé les vins doux, aucun problème, hein, Arnaud de Villanova a effectivement comme le dit le texte, qui sort du site internet de Cellier et Templier, Arnaud de Villanova a effectivement mis au point le vin muté, aucun problème. Mais il ne l'a pas fait pour Banyuls, il l'a fait pour toute la chrétienté, qui à l'époque, tout le monde entier, qui utilisait du vin. Et quand on voit cette petite page très sobre du Cellier et Templier, qui reprend donc le terme Templier, on voit que de l'Antiquité jusqu'au XIIIe siècle, on a des généralités sur la vigne. Oui, hein, c'est certain, les Grecs, les Phéniciens ont pu se promener au pied du mont Canigou. Pourquoi pas, hein, avec le nombre de galères coulées qu'il y a dans le coin, on doit bien pouvoir en trouver une qui correspond à ça. À Narbonne, à quelques dizaines de kilomètres, il y a l'anse des galères, hein, tellement il y en a qu'elles se voient même par temps clair au fond de la mer. Au Moyen-Âge, les Templiers ont marqué la viticulture, c'est certain. Les Templiers, moines, soldats, banquiers, usuriers, tout ce que vous voudrez, on connaît l'histoire des Templiers. Mais est-ce qu'on se s'est inspiré? Est-ce que les Templiers sont revenus de leur croisade en s'installant à Banyuls et en imposant ce système du pied de coq? On n'en sait rien. Hein. Ça, c'est l'invention de la communauté, c'est l'invention du cellier des Templiers. Et du cellier des Templiers, et on le voit bien, hein, puisque regardez ici, après les généralités du XIIIe siècle, on arrive directement en 1936. Voilà. Une ellipse à la Stanley Kubrick, à la 2001, qui vous montre bien que quand même, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et oui, forcément, il n'y avait pas de vigne. Pas beaucoup. Et en tout cas, elle ne produisait pas que du vin muté. Hein. Donc du coup, forcément, hein, on a un vignoble qui a 150 ans. Même pas. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas son potentiel patrimonial. On a donc un paysage qui n'est pas statique, comme j'ai essayé de vous le montrer à travers mes petits calculs de bas étage, de maillage tout à l'heure. On a un paysage qui est en mouvement tout le temps. Je vous montre ici trois photos pour vous l'illustrer. Des nouvelles plantations, ici, ou encore ici, pas encore plantées, ici, nouvellement plantées. Alors là, c'est un petit peu... Ah, c'est décalé. Ici, à l'ancienne, excusez-moi, à l'ancienne, c'est ici, voilà. À l'ancienne, pourquoi? Parce que les densités de plantation ne sont pas du tout respectées dans cette parcelle. C'est pas grave, hein. On peut imaginer que le Yannao ne sera pas trop sévère. On plante encore, on peut trouver encore, c'est super rare, mais on peut trouver dans l'appellation Banyuls de la vigne plantée en foule. C'est-à-dire, avant l'introduction du cheval, qui ici n'a pas été introduit d'ailleurs, avant le phylloxéra, avant la rationalisation de la viticulture post-phylloxérique. Et je crois que là, il y a un peu de plantation en foule, mais c'est rarissime. Et justement, on a arraché cette parcelle-là pour la planter ici de manière un peu plus rationnelle, ou comme ici, hein, en respectant des densités de plantation analogues au cahier des charges que l'on demande aux viticulteurs. Ici, on a respecté les pieds de coq. On les voit, voilà, ils sont là. La gouille principale, les agouilles secondaires. Et ici, ce sont des vignes coupe-feu, celles-là aussi. On n'a pas respecté. On a planté dans le sens de la pente, On a respecté certes la densité, mais on a enlevé les pieds de coq. On les a enlevés parce qu'il y en a ici en bas, on les voit. Vous voyez, on voit les stries ici, des pieds de coq là. Il y en a en haut aussi. Là, j'y suis allé dans ce coin-là. Ici, j'y ai traîné aussi. On les voit très mal parce que la végétation les recouvre. Mais il y a aussi des pieds de coq. Il y en a partout autour. On les a détruits à la pelle araignée. Sur des pelles qui peuvent se déplacer sur des pentes très très fortes. Elles se déplacent un peu comme sur de grandes pattes sous forme de petites chenilles, comme des araignées. Et puis on a replanté de manière beaucoup plus rationnelle, en bien sûr limitant les coûts de plantation. Donc un paysage en mouvement qui n'est pas forcément un paysage qui respecte le traditionnel pied de coq. Un paysage qui est aussi donc face à l'enjeu de l'enfrichement, face aux enjeux de l'incendie, et face à son dernier problème, très actuel, face à un défi paysager et culturel. Et bien sûr aussi patrimonial. Pourquoi ? Parce que pour avoir une récolte digne de ce nom, il faut arriver à 30 hectolitres à l'hectare. Si vous voulez arriver à 30 hectolitres à l'hectare, il vous faut déjà engraisser la terre. Il faut mettre de l'engrais en janvier. C'est un moment de la viticulture que nous ne voyons pas. Nous, ce sont des paysages que nous voyons en juillet et en août. La vigne recouvre grosso modo le sol, elle est en végétation, et on ne met pas d'engrais à ce moment-là. Il serait très mal assimilé par la plante. Et surtout, donc premier enjeu de pollution, l'engrais. Et surtout, enjeu majeur, le désherbage systématique. Si vous ne désherbez pas, l'herbe va rentrer très vite en concurrence avec la plante et votre rendement va être divisé par 2, par 3, par 4. Quand vous prenez les archives de l'époque, eh bien, on a des déclarations de récolte nulles par endroit. 1848, je crois, année désastreuse, certains paysans n'ont pas récolté. Ou alors, on tombe à 2 hectolitres hectares, à 4 hectolitres hectares, à 10. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui dans notre idée du marché, n'importe quel produit, qui doit reproduire tous les ans la même chose et même le reproduire de mieux en mieux, et donc toujours avoir la même quantité. Donc, depuis 45 ans, à peu près 50 ans, depuis une petite cinquantaine d'années, eh bien, pour pallier ce manque de main-d'œuvre, parce qu'on ne trouve pas de gens pour piocher la vigne, arriver aussi à une concurrence nulle entre la vigne et son environnement, eh bien, on désherbe systématiquement. La route qui part donc de Perpignan et qui arrive à Pourvendre, qui traverse tout le vignoble, qui va être prolongée d'ailleurs jusqu'à Banyuls, la trois voies. Et le paysage a un potentiel d'émerveillement assez important. Vous avez le bleu du ciel, le bleu de la mer, deux bleus différents, le vert de la végétation, le vert de la vigne qui est lui aussi différent, la roche qui elle aussi a encore une autre teinte bleue, violette qui réapparaît, les schistes précambriens dont je parlais au début. Tout ceci, toutes ces touches impressionnistes qui ont forcément frappé les peintres de l'école de Collioure, et tous les Manet, les Monet et autres, sont descendus un jour ou l'autre, d'ailleurs d'ici, peindre aussi des paysages méditerranéens. Et ils ont fait souvent les allers-retours entre la Normandie et la Bretagne. Vous allez à Collioure aujourd'hui, l'été, vous trouvez des peintres du dimanche partout. Eh bien, cette vision très picturale du paysage, cette vision hyper patrimoniale, repose sur un compromis qui est en fait très dangereux pour l'environnement et surtout pour les viticulteurs eux-mêmes. Les premiers touchés par l'emploi des pesticides, ce sont les viticulteurs. Notamment en maladie de Parkinson, c'est une maladie reconnue à cause de l'usage des pesticides, mais aussi différents types de cancers, mais aussi des malformations congénitales de la descendance de ces viticulteurs. Ça, bon, ce sont des travaux qui ont 40 ans et maintenant, mais qui ne sont toujours pas reconnus par la loi. On a donc ici un défi pour l'avenir qui est particulièrement prégnant, parce que ces produits dont ils se servent sont en phase d'interdiction depuis maintenant un an, deux ans. Voilà. Dans les 10 prochaines années, ces produits-là seront petit à petit tous interdits. Que va devenir ce vignoble qui est en train de vieillir, qui est en train d'être en but à l'enfrichement, qui se bat aussi avec la littoralisation, un petit peu, malgré ce que fait l'INAO, malgré la prise de conscience des élus aussi. Il ne faut pas leur enlever cela. Que va devenir ce vignoble ? quand il faudra totalement abandonner le désherbage chimique. Les viticulteurs en sont conscients. Pour l'instant, la recherche agronomique avance, mais elle avance beaucoup plus lentement que ce que demande le marché, le maintien de la qualité, le maintien du volume, pour simplement que les viticulteurs puissent vivre de leur production.